Salut à tous, salut à toutes, vous écoutez RTF et vous écoutez le mandarin merveilleux, les réducteurs de texte sur 94,5 MHz ou bien...
Je crois bien que c'est plutôt 95,4.
Oui, j'ai interverti les chiffres. 95,4. Ou alors, vous êtes sur Internet.
Voilà, et là, c'est beaucoup plus facile. Et
voilà.
RTFlimoges.com.
Voilà. Et si vous, vous faites peut-être partie des 5 personnes qui possèdent le DAB+, et à ce moment-là, bah, vous cherchez.
Vous cherchez, parce que ça se trouve tout seul. Et donc, voici le mandarin avec des morceaux classiques très beaux cette semaine, contrairement à d'habitude, où c'est des vieilleries tout à fait...
avec
des auteurs inconnus et des musiciens qui jouent faux... Alors cette semaine, on a des musiciens connus qui jouent juste, et puis des beaux livres.
Hein. Des beaux livres, oui. Alors, le dernier livre de Luis Sepúlveda, qui rappellera à certains d'entre nous, peut-être pas les plus jeunes, tout le mouvement qu'il y a eu de chilophilie suite au coup d'État de septembre 73.
Ouais. Où la France a accueilli tous les artistes chiliens.
Voilà. Alors là,
Je me souviens, Jean-François, quand vous interviewez les Quilapayún.
Les Quilapayún,
dans
notre
tout petit studio.
Absolument. Où ils étaient, je ne sais pas, que ce studio devait faire quelque chose comme 15 mètres carrés. Et les Quilapayún y étaient au grand complet.
Oui, toute l'équipe.
On serait cru dans le métro à 6 heures du soir. Bon, et puis un autre livre aux éditions Verdier qui publient toujours des choses excellentes avec leur couverture jaune, et ils sont dans l'Aveyron ou je ne sais pas où, en fait ils sont en province. Et alors c'est un roman qui n'en est pas un tout en étant un, de Elise Goldberg, qui s'intitule « Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie ».
C'est vrai.
Le gefilte fish, c'est pas bon. On en reparlera. Voilà. Et puis alors des disques,
ouais.
J'ai trouvé des disques sympathiques. J'ai trouvé, par exemple, mais ça nous allons l'écouter, j'ai trouvé des concertos pour flûte de Vivaldi. Alors vous savez, la mode, depuis presque décennies, ça consiste à les jouer sur des traversos ou des instruments d'époque. Mais moi, je trouve que c'était quand même pas mal quand c'était sur une belle flûte Lott ou Heinz, joué par Jean-Pierre Rampal, et c'est ce qu'on va écouter dans quelques minutes. Et puis j'ai trouvé un bel enregistrement de Berlioz, entre autres de Harold en Italie. Et puis qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, j'ai trouvé Palestrina. Vous connaissez Palestrina?
Oui.
Bon, eh bien, il a écrit un requiem et il a écrit aussi une musique des chœurs sur le cantique des cantiques.
Excellent.
Voilà. Nous écouterons donc des extraits de tout ça. Et alors, il y a du jazz.
Oh là là, oui.
Mais ôtez-moi d'un doute, vous avez des disques qui ne sont... Ah non, je me disais aussi.
Oh là là.
Oh là là, ce paquet.
Alors, nous écouterons Simon Denisard tout à l'heure. C'est un pianiste tout à fait génial. Nous écouterons Daniel Zimmermann qui joue du trombone. Nous écouterons au choix soit Andy Emler, mais c'est encore du piano, oh là là, ou alors Lars Danielsson avec toute sa belle équipe de stars, son All Stars Band. Bon, et si on commençait par...
Alors commençons,
donc, Vivaldi.
C'est ce que je vous disais, Vivaldi qui a écrit quantité de concertos. Alors, il y a la note, en plus c'est joli, la note et la nuit. Il y en a un autre qui s'appelle La Tempesta di Mare, La Tempête sur la mer. Et puis un autre qui s'appelle Il Gardellino, Le Chardonneret.
Ça sera pour la prochaine fois.
Alors, ça sera pour la prochaine fois. Alors là, nous allons écouter. Donc, c'est la note est donc interprétée par, alors, voilà, Jean-Pierre Rampal et I Musici sous la direction de Claudio Scimone. Et tout ça, c'est des choses qui ont 40-50 ans. Et alors, ça a été en quelque sorte chassé un peu du devant de la scène par les baroqueux.
Mmh.
Donc, ils ont joué ça avec des petites flûtes, des petites flûtes à bec, ou encore avec ce qu'on appelle les traversos. Pas terrible quand même comme son. Et on redécouvre, on en est au post-baroque, et donc on redécouvre ce merveilleux son de Jean-Pierre Rampal. Vous savez que le monde entier, je parle des flûtistes classiques, le monde entier joue avec la sonorité de Jean-Pierre Rampal, tellement il a eu d'influence. C'est encore le cas pour l'excellente flûtiste de l'Orchestre de l'Opéra de Limoges qui s'appelle Eva Nina Kosmus.
J'espère que vous nous la ferez écouter un de ces jours.
Eh bien écoutez, je n'ai pas trouvé, elle a dû enregistrer, mais je n'ai pas trouvé d'enregistrement d'elle. Mais je vous promets bien que dès que j'en aurai trouvé, je vous en ferai partager le plaisir.
Alors, la note.
La note.
Thank you.
Alors voilà, c'était donc Jean-Pierre Rampal qui nous interprétait ce concerto en sol majeur, sol mineur je pense d'ailleurs, la note de Vivaldi.
Il y a plein d'autres belles choses sur cet
enregistrement. Oui, bien sûr, il y a plusieurs concertos de Vivaldi. Alors j'en profite pour signaler que Jean-Pierre Rampal avait ressuscité des auteurs du 19e siècle, milieu 19e siècle, comme De Vienne, par exemple, qui n'est pas très connu, mais qui est très connu des flûtistes, et qui a écrit beaucoup de concertos, d'études, etc., que Rampal faisait travailler quand il était prof au Sub de Paris par ses élèves qui sont eux-mêmes devenus soit prof au Sub de Paris, comme Artaud, je crois le titulaire actuel, ou comme Emmanuel Pahut, qui est la flûte solo de la Philharmonie de Berlin. Excusez du peu.
Ouais, excusez-nous, mesdames, messieurs.
Bon, alors, là, qu'est-ce que vous nous avez dégoté?
Oh, ben non, je ressors, regardez, un beau disque dédicacé par Lars Danielsson.
Oui, bon, ça, je m'en doute,
Regardez. Hein, et pas que par lui, et également par John Paricelli, le guitariste, qui me l'avait dédicacé aussi. Et je crois que c'est tout. Alors, il y avait aussi...
Attendez, pardon, faites-moi voir cette dédicace, là.
Attendez, après. Il y avait aussi Tigran Amassian, le pianiste, que j'aime beaucoup, qui a fait des disques oui. de piano solo aussi, par ailleurs. Donc, je vous en passerai un de ces quatre. Et puis, le batteur, c'est Magnus Ostrøm, qui est très connu parce qu'il faisait partie du trio d'Esbjørn Svensson.
Qui est un espagnol, hein.
C'est ça.
Et alors, oui, je vois ces dédicaces. Mais dites, il y a marqué au-dessus. Arrête de me harceler.
Je vous le mettrai sur notre Facebook, mesdames, messieurs, vous voyez à quel point ce garçon est de mauvaise foi. Alors, je vous propose d'écouter une composition de Lars Danielsson. J'ai oublié de préciser que lui-même, il est violoncelliste et contrebassiste, mais aussi il a composé tous les morceaux de toute cette série des Liberetti. 1, 2, 3 et 4, 4 albums parus sous cette appellation. Et voici une passacaille,
voilà,
façon
une passacaille,
jazz
ouais.
de Lars Danielsson. Thank you. premier livre de cette émission.
Alors, premier livre aux éditions Métallier, c'est une traduction, c'est de Luis Sepúlveda, L'ombre de ce que nous avons été. Alors, Luis Sepúlveda est un Chilien, il a 70 ans à peu près, il a beaucoup écrit et beaucoup publié. Son titre le plus connu, je crois, c'est Le vieux qui lisait des romans d'amour,
oui, oui, oui.
qui date de 92. Mais il y a aussi Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre,
oui.
très beau livre, et puis beaucoup d'autres, Les roses d'Atacama.
Les roses d'Atacama, c'est très
voilà.
très beau.
Ouais. Donc, très bien tout ça. Et alors, donc, vous savez, les Chiliens, à la suite du coup d'État de Pinochet de 73, nombreux, dont Luis Sepúlveda, d'abord, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de gens qui ont été emprisonnés, etc. Et puis, il y en a eu beaucoup qui ont eu la possibilité de s'exiler en France. La France a accueilli beaucoup de Chiliens, et aussi en Allemagne. Et c'est ce qui est arrivé à Sepúlveda, qui est allé... il est allé à Paris, il est allé à Hambourg, où il a vécu des années, et actuellement, il est revenu en Espagne. Alors, c'est un livre qui est à la fois amusant et, j'allais dire, presque haletant. Donc, on est à Santiago, dans un vieil entrepôt tout pourri, trois personnages qui ont la soixantaine bien tapée, et qui ont tous lutté pour Allende, puis contre Pinochet, ils se sont exilés, et ils reviennent. Et ils reviennent pourquoi ? Ben parce qu'ils ont un projet qui est une espèce de... une action révolutionnaire qui consiste à récupérer un trésor, à savoir un demi-million de dollars, en billets qui ont été cachés quelque part suite à une attaque de banque qu'ils avaient faite quand ils étaient jeunes.
Ça fait un peu les vieux fourneaux, quelque part.
Ça fait un peu les vieux fourneaux. Et alors, ils attendent un type qu'on appelle l'ombre ou bien le spécialiste. On ne sait pas qui c'est, mais on sait qu'il doit les aider à récupérer ce magot. Or, le hasard enchaîne les circonstances. Il y a un type qui, dans une rue de Santiago, où il habite, il se dispute avec sa femme, dispute qui s'envenime. Sa femme jette par la fenêtre un tourne-disque. Alors, et d'autres choses, mais le tourne-disque atterrit sur la tête de quelqu'un,
aïe.
Le tue. Alors, donc le type descend, en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé ?» etc. C'est terrible, enfin. Il regarde, il s'aperçoit d'abord que le type est mort, parce qu'il a le crâne complètement défoncé, avec la cervelle qui sort et tout. Et il le fouille, et il découvre un pistolet dans sa poche. Il se demande si c'est pas quelqu'un de la police, etc. etc. Et il découvre aussi un carton avec un numéro de téléphone. Alors, il hésite, il décide de ne rien faire, et puis sa femme, qui est une alcoolique finie, par des enchaînements de circonstances, finit par tout révéler à la police, à un inspecteur qui est assez ennemi. On n'est plus sous Pinochet, hein, c'est bien après, qui était assez ennemi de sa hiérarchie, qui se dit finalement, c'est un accident, on ne va pas faire d'histoire, mais il récupère le carton où il y a marqué ce numéro de téléphone, et puis il décide d'appeler pour voir ce que c'est. Or, ce que c'est le vieux garage tout pourri, se sont réunis les trois sexagénaires. Voilà, alors je vous dis pas la fin.
Non, ne vous dites pas, parce que moi ça me donne envie de le lire.
Je vais pas vous divulgâcher la fin.
Parce que c'est ce style de Sepúlveda qui est un peu, comment dire, un peu surréaliste en Amérique du Sud.
Voilà, c'est très typique de la littérature en effet sud-américaine, avec un côté, oui, un peu surréaliste, un peu comique.
Un peu fantastique.
Un peu fantastique. Ben, voilà, tout ça, c'est très bien fait. Alors, on apprend aussi des choses sur la gastronomie, si l'on veut, chilienne. Les héros mangent ceci, cela. Bon, c'est pas le plus intéressant, mais enfin, voilà. voilà, c'est un très bon livre qu'on lit vite, qu'on lit avec plaisir, et ça s'appelle L'ombre de ce que nous avons été, donc c'est de Luis Sepúlveda aux éditions Métallier. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de lire Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre, je vous recommande de lire Le vieux qui lisait des romans d'amour.
Bien sûr.
Et d'ailleurs tous Sepúlveda,
ce sont en général des petits romans ou voilà. Des longues nouvelles, mais ça se lit dans une soirée.
Voilà, c'est ça. C'est là, ça fait 150 pages. Voilà. Alors,
ah, c'est parti. Ah, vous nous désannoncerez tout à l'heure. Thank you.
Voilà, c'était Harold en Italie de Hector Berlioz. Alors, quelques mots sur cette œuvre. Donc, 1834, et magnifique orchestration. Vous savez, c'était le romantisme, mais beaucoup transposé en musique des impressions littéraires. Liszt l'a fait, Berlioz aussi l'a fait, bien entendu, et en particulier, ce Harold en Italie est inspiré par le poème de Byron, de Child Harold. Interprété ici d'une manière assez curieuse par l'orchestre révolutionnaire et romantique dirigé par John Eliot Gardiner. Alors, c'est un orchestre qui joue avec des instruments. Tous les instruments datent des années 1830. On peut entendre, pas dans Harold en Italie, mais dans la Symphonie Fantastique, par exemple, des instruments tels que l'ophicléide, qui est une espèce de truc qui ressemble à un saxophone, donc avec des touches. Mais il y a une embouchure de trompette, instrument abandonné. C'est un instrument un peu expérimental. Il y avait aussi le sarrusophone à l'époque. On a été très inventif au 19e siècle. Et donc, Gardiner veut retrouver la sonorité originelle de nous faire entendre des choses, quelque chose dans leur jus, comme diraient les antiquaires. Il y a les altistes adorent Harold en Italie, parce qu'il y a un grand solo d'alto. Vous savez, l'alto est souvent assez ignoré, voire un petit peu méprisé. Et là, c'est Gérard Cosset sur ce disque qui joue, et c'est John Eliot Gardiner, donc avec son orchestre révolutionnaire et romantique.
Bon, eh bien après l'orchestre, on va passer à la formation la plus minimaliste qui soit, à savoir le trio piano.
J'ai cru que vous alliez dire basse, le triangle.
Le triangle, ça c'est mon instrument préféré, vous savez. Donc piano, basse, batterie.
Voilà.
En écoutant, je crois que c'est son dernier disque, ou son avant-dernier disque, The Useful Report, un disque de Andy Emler, qui est un homme... pianiste donc et compositeur extrêmement sympathique, très sensible, très inspiré par notre époque, donc qui compose en fonction de sa sensibilité à l'actualité, un petit peu au sens de notre époque. Et ça donne des compositions tout à fait sympas. Donc, on a eu la chance de le voir sur scène à Jean Gagnant là, cette année, enfin l'année dernière maintenant, et de bavarder avec lui, et puis avec ses deux complices, Claude Tchamitchian à la basse et Eric Echampart à la batterie. Et c'était vraiment une très belle soirée, très apprécié par le public de Limoges. J'espère qu'on aura l'occasion de le revoir sur scène ici bientôt. Voilà, alors donc, par ce trio de Andy Emler, je vous propose d'écouter une composition qui s'appelle The Document. Thank you.
deuxième livre du jour.
Alors, deuxième livre, donc, c'est aux éditions Verdier, qui sont, alors, je sais pas où, je crois que c'est dans l'Aveyron ou quelque chose comme ça. C'est un éditeur provincial, mais c'est un éditeur qui ne publie que de la belle littérature de qualité, qui ne cherche pas à vendre à tout prix. Ça a été un des premiers éditeurs de Pierre Michon, je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs. Voilà, donc ça, Élise Goldberg, tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie. On s'en doute, c'est un livre... Alors, c'est un roman, c'est pas un roman, c'est une espèce de... C'est difficile de donner une forme. D'ailleurs, elle n'a pas mis, hein, elle n'a pas mis roman, récit ou quoi que ce soit. Voilà, elle nous donne le texte. Alors, c'est une série de petits textes, de petites notations sur la cuisine yiddish, sur un peu la civilisation juive ashkénaze et sur un peu sur l'histoire de sa famille. Alors avec le côté vraiment ashkénaze, c'est-à-dire rue des Rosiers, c'est-à-dire ces gens qui étaient des petites gens, c'est pas les Rothschild, des petites gens, des petits artisans. Elle cite Finkelstein, qui est une boutique. Alors pour ceux qui connaissent la rue des Rosiers, une boutique qui est entièrement carrelée de jaune, les murs. Je sais pas, je suis sûr que vous voyez ce que c'est sur la gauche quand on va. Enfin bref. Donc voilà, elle parle de tout ça et elle parle de la carpe farcie. Alors la carpe farcie, faut bien dire, c'est pas bon. C'est pas bon, ça a aucun goût, c'est pâteux. Et alors elle cite également d'autres recettes qu'elle aime bien, enfin qu'elle aime bien, pas tellement, mais pour elle, c'est le goût de son passé et de sa famille. Alors par exemple, quelque chose qui s'appelle... Ça s'appelle le pied de veau. Alors, c'est des pieds de veau. Alors, c'est une espèce de gélatine. C'est pas très bon non plus. Et c'est mou. Et tout ça, ce sont évidemment des plats de pauvres. La carpe, c'est pas cher. Hein. Ce sont des plats de pauvres. Pareil, hein, les pieds de veau, c'est pas le morceau le plus recherché. C'est pas les riz de veau. Bon. Donc c'est d'une espèce de gastronomie, enfin de nourriture plutôt, de nourriture de pauvres. Et aussi, c'est une nourriture qui obéit à la cache-route. Et alors, elle cite tout ce qu'il ne faut pas manger d'après le Lévitique. Alors, plein de choses... bien entendu, pas de porc, bien entendu, pas de boudin, pas de sang, mais bien entendu, pas d'animaux qui ne ruminent. Alors attendez, qui ruminent et qui n'ont pas le pied fendu, ou alors sinon, il faut qu'ils aient le pied fendu, etc., etc. Les poissons, mais alors attention, la carpe, mais pas toutes les carpes. La carpe miroir. Attendez, laquelle qui a des écailles, c'est la carpe miroir ou oui. La carpe cuir?
Non, la carpe miroir.
Alors voilà, donc ils peuvent manger la carpe miroir qui a des écailles. Mais par exemple, ils ne peuvent pas manger ni... Alors, si vous mangez avec un juif ashkénaze de stricte observance et qu'il y ait du homard et de la carpe bouillie, vous pouvez lui dire que vous respectez tellement ces prescriptions cachères que vous bouffez le homard
et lui
il bouffe la carpe bouillie, etc. Et alors, elle raconte... En particulier, en parlant des plats, de la gastronomie, une histoire incroyable de ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents qui étaient en Pologne, qui étaient, alors je ne sais pas où, à Bialystok, dans ces coins-là, qui ont été obligés de partir et qui ont d'abord été mis en prison pratiquement, par les soviétiques qui avaient fait un pacte avec, vous savez, le fameux pacte germano-soviétique. Et puis, quand Hitler a envahi l'Union soviétique, à ce moment-là, on les a libérés parce qu'ils devenaient... Donc, comme Hitler était antisémite, les Juifs qui étaient réfugiés devenaient... Vous savez, les amis de nos amis sont nos ennemis, etc., etc. Et donc, ils racontent comment ils ont fini par atterrir en Ouzbékistan, dans une ville où il y avait des mines. Et donc, je crois que c'est son arrière-grand-père ou son grand-père est devenu ingénieur des mines, si l'on ose dire. C'est-à-dire qu'il s'occupait vraiment
d'aller faire exploser des trucs pour ouvrir des galeries dans les mines. Enfin, vous vous rendez compte, en Ouzbékistan. Et puis de là, ben, ils sont revenus en Union soviétique, puis en Pologne, et ils ont atterri en France pour finir. Voilà. Donc c'est un livre extrêmement charmant. Extrêmement charmant, très sympathique. Ça donne pas forcément envie. Alors, ce qu'elle a d'un peu agaçant, c'est qu'elle cite un yiddish. Alors, vous savez, le yiddish, qui est une espèce de langue. D'abord, ça s'écrit en caractère hébraïque. Et c'est une langue qui est très inspirée de l'allemand, du haut allemand, mais avec des mots hébreux. Et c'est une langue. Il y a eu, je crois que c'est Sholem Aleichem qui a eu le prix Nobel de littérature. Donc, c'est vraiment une langue avec une littérature. Elle cite les plats. Alors souvent, si vous savez l'allemand, vous comprenez un peu de quoi ça cause en yiddish. Mais alors, elle les retranscrit avec des caractères hérissés de C, Z, Y, etc. Ce qui rend la chose un peu difficile à lire parfois. Mais sinon, c'est tout à fait sympathique. Voilà. Et puis, vous pouvez toujours aller chez Finkelstein. Donc, si vous passez par la rue des Rosiers, vous pouvez acheter... des espèces de petits pains assez sympas au sésame, enfin voilà, des choses comme ça. Ça s'appelle « Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie » et c'est de Elise Goldberg. Voilà, c'est un enregistrement magnifique, musicalement et techniquement. Alexandre Tarot qui a enregistré l'œuvre complète pour piano de Emmanuel Chabrier.
Allez, mais on termine à la trompette. Avec Flavio Boltro, une composition de Pierre de Bettmann qui n'est pas sur le disque, car le pianiste ici c'est Eric Lenini. Ça s'appelle Flavio Sphère.
C'est un côté fin de soirée au bar dans un grand hôtel.
Mais bon. C'est exactement ce que nous faisons.
Voilà. En tout cas, on vous souhaite une bonne suite et fin de soirée. Toujours sur RTF 95.4 MHz. Et puis, sinon, c'est la semaine prochaine.
Je crois.
À 20h sur RTF. Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Salut,
bonsoir Francis.
Jean-François.
Et merci pour cette réalisation technique impeccable.
Et merci pour tous ces beaux livres que vous nous avez suggérés. Surtout le Sepulveda, je vais dire, pour moi. Car la carte farcie, bon. Mm-hmm.